demande à Jean-Paul. Jean-Paul Combe, de d'entonner. Qui est toujours aussi accueillante et où on a l'habitude d'aborder la parole de Dieu sous des aspects un peu concrets qui touchent au vécu de l'homme, à ses habitudes. Et aujourd'hui, eh bien, c'est pour retrouver, avant que Bernard nous présente le sujet, retrouver un geste, celui du potier, qui est une faible image de ce que Dieu est. On a dit bien souvent que pour avancer spirituellement, eh bien, il fallait avoir une connaissance suffisante de la grandeur de Dieu, de ce qu'il est en lui-même, et de ses caractères qui sont placés à notre disposition par sa parole et par son esprit. Il faut connaître un petit peu ce qu'est Dieu pour comprendre, pour avancer avec lui, avec le Seigneur, dans notre vie de chrétien. Alors, pardonnerai, je ne suis pas potier, mais bon, je connais le geste, et avec Lucien, on a décidé d'en parler un peu tous les deux, peut-être que vous en profiterez, et puis peut-être de céder un peu de la parole, parce que le potier n'est rien par rapport à ce qu'est Dieu. Et il faut partir avec ce préambule, parce que c'est un geste simple, mais il est instructif. Et Dieu, qui est si grand, et on va lire un verset dans le psaume 33, ou deux versets dans ce psaume. Voyez-vous, entre le potier et Dieu, il y a cette différence, c'est que le potier se courbe sur sa balle de terre et qu'il force, c'est un travail un peu physique. Eh bien, Dieu, lui, il a parlé et la chose a été, n'est-ce pas? Et cela nous donne la dimension de Dieu en création. Si tu veux lire le psaume 33, ou deux versets.
Au psaume 33, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par l'esprit de sa bouche. Verset 9, car lui, il a parlé, et la chose a été, il a commandé, et elle s'est tenue là.
À faire un pot à partir de ce verset de Jérémie 18 que tu voudras bien lire et qui nous présente déjà des choses importantes.
Alors, pendant que Marc met les choses en place, je lis Jérémie 18. Un passage quand même fondateur, important. La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel disant « Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. » Et je descendis dans la maison du potier, et voici il faisait son ouvrage sur son tour. Et le vase qu'il faisait fut gâté, comme de l'argile dans la main du potier. Et il fit un autre vase comme il plut au potier de le faire. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Ne puis-je pas faire de vous comme fait ce potier, ô maison d'Israël, dit l'Éternel ? Voici, comme est l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, ô maison d'Israël. »
Il y a le potier qui fait un vase, et ce qui nous étonne, c'est que le premier fut gâté. J'ai pas l'impression que ça marche aussi. Vous entendez ? Le vase fut gâté, chers amis. C'est quand même quelque chose de solennel, parce qu'on ne peut pas penser que c'est un défaut du potier. Moi, je vais peut-être gâter le vase, parce que je ne suis pas potier, je connais le geste, je suis amateur. Mais un potier de métier ne gâte pas les vases. Alors d'où cela vient-il ? Eh bien, il y a un aspect prophétique, et peut-être que tu peux en parler déjà, parce qu'il faut replacer le texte dans le contexte. Et on sait que ce verset est dans le livre du prophète Jérémie, donc cela se rapporte à Israël, et je pense que, Lucien, tu peux en dire un mot.
Eh bien, la nation d'Israël, manifestement dans ces versets, est comparée à un vase que Dieu avait formé, que Dieu avait tiré d'Égypte, et il n'est pas question de défaut dans l'artisan, mais le vase fut gâté parce qu'Israël fut infidèle. Et d'ailleurs, dans le chapitre 19, Dieu brise le vase. « Je briserai ainsi ce peuple et cette ville comme on brise un vase de potier. » Donc Dieu rejette son peuple, brise son peuple parce qu'il a été infidèle à son Dieu. Il l'a abandonné. Que de fois, d'ailleurs, dans Jérémie, Dieu dit « Vous m'avez abandonné, et abandonné la source des eaux vives, etc. » Donc ce vase fut gâté par l'infidélité d'Israël. On peut dire aussi par Satan qui agit toujours derrière, qui gâte tout ce que Dieu fait.
Voilà, alors maintenant il y a deux choses, parce que avant de s'intéresser au vase, eh bien le potier s'intéresse à l'argile. Et vous savez qu'il y a un rapport, il y a une image qui est saisissante. Nous savons bien, lorsque Dieu a créé la terre, déjà la terre, c'est, nous savons bien ce que cela représente, mais nous savons que l'homme aussi a été créé de la poussière de ce monde. Et nous savons que lorsque l'homme est retiré de cette terre, son esprit retourne à Dieu, qu'il avait donné, et son corps retourne à la poussière. Donc il y a une relation qui est intéressante à considérer et qui nous montre aussi ce que nous sommes. Nous sommes poussière et cendre. Mais intéressons-nous d'abord à l'argile. Cette balle d'argile que j'ai entre les mains, elle nous est vendue actuellement, boudinée, préparée, avec la consistance voulue, avec tout ce qu'il faut. Mais il faut savoir que le potier biblique, le potier du temps où la parole de Dieu a été écrite, et même pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps, le potier se préoccupait de l'argile, et il allait chercher son argile. Et il faut savoir que l'argile, eh bien, c'était souvent des roches plus ou moins dures, desséchées, et cette argile, il fallait la préparer, il fallait la concasser, la briser, la rendre plus virulente et puis ajouter de l'eau pour avoir la consistance voulue. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas déjà une image de ce que nous sommes? C'est-à-dire que pour être dans la main du potier et pour pouvoir devenir un vase, eh bien, il faut que l'argile soit adéquate. C'est-à-dire que, ben, quelquefois, dans le cœur de quelqu'un que Dieu veut avoir pour lui, eh bien, il faut que ce cœur-là soit déjà brisé, humilié, pour recevoir le salut gratuit que Dieu offre à chacun. Et c'est encore un jour de grâce, et Dieu veut encore que des âmes soient sauvées et viennent à sa connaissance. Alors, donc, voilà, il y a plusieurs façons d'aborder le travail. C'est-à-dire que, ben, si j'ai une argile qui est encore trop dure, voyez-vous, eh bien, même si je vais l'utiliser, celle-ci, j'ai besoin de l'aplatir, de l'enrober avec des linges humides, de la laisser de côté pour qu'elle puisse prendre la bonne consistance. Eh bien, ça, c'est encore la même chose, n'est-ce pas ? Cela nous parle de la nécessité d'avoir une terre préparée pour que Dieu fasse son œuvre dans le cœur. Bon, maintenant, une deuxième explication à ce verset. Le vase fut gâté. Eh bien, il y a des argiles qui sont pleines de scories, on la met sur le tour, et puis tout d'un coup, ça accroche, et le vase est gâté, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait de cette argile? Eh bien, celle-ci, elle n'est pas récupérable, et elle est mise de côté. Et cela nous dit que si une âme ne veut pas se laisser purifier par le Seigneur, eh bien, si elle refuse sa grâce, eh bien, cette argile-là est mise de côté, et elle ne peut pas participer à ce que Dieu veut faire pour lui, pour elle. Donc c'est quelque chose de solennel, et c'est quelque chose qui nous parle. Donc des argiles différentes, mais il y a des argiles préparées, n'est-ce pas, qui sont là, et qui peuvent être utilisées, et dont Dieu va se servir pour former un vase. Un vase, voilà. Alors, la première des choses, c'est que je viens de le placer, n'est-ce pas, là. C'est un rondeau de bois qui doit être solidement fixé, sinon le vase est vraiment compromis, n'est-ce pas? Bien, cela nous parle aussi, n'est-ce pas? C'est que si nous ne fondons pas notre foi sur le seul fondement qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Eh bien, le vase risque bien d'être soit gâté, soit déformé, n'est-ce pas? Ça ne va pas marcher, n'est-ce pas? Alors déjà, voilà une image que l'on peut tirer du geste du potier, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on place la balle de terre, n'est-ce pas, ainsi. Voilà. On l'arrondit un petit peu et on veille à ce qu'elle se colle sur le tour. Et puis, c'est le tour qui fait le travail. Et les mains qui essaient de modeler la poterie. C'est un travail un peu sale, mais qui permet de réfléchir aussi quelquefois. Voilà, alors le premier travail, c'est un travail de centrage, n'est-ce pas? Et c'est pas toujours facile parce que... Je sais pas trop comment mettre. Pratiqué par un non-voyant. C'est-à-dire que le toucher est très important. On n'a pas tellement besoin de voir ce que l'on fait, surtout quand les potiers font des séries, n'est-ce pas, toujours les mêmes vases, etc. Il est possible de ne pas regarder, moi je n'en suis pas là, mais c'est pour dire que c'est surtout les mains qui travaillent et qui sentent. Ils sentent ce qui se passe. On prépare d'abord le fond, parce qu'après, suivant la forme du vase, on ne pourra plus y revenir. Et ensuite, les mains vont agir. Et c'est par interaction que la paroi va se former. Il y a une action, c'est celle de la main droite, qui forme le vase. Et il y a la réaction de la main gauche qui résiste à la main droite. Donc il y a deux actions simultanées. Chers amis, dans la formation d'un chrétien, eh bien, il y a deux choses qui sont essentielles. Il y a la parole de Dieu et il y a son esprit. Et alors, on a oublié de le dire tout à l'heure, mais en création, Dieu n'était pas seul. Et vous savez que dans la Genèse, il est parlé de ceci, n'est-ce pas? C'est qu'il y a le pluriel faisons l'homme à notre image. Et dans cette création, il y avait un artisan, n'est-ce pas ? C'est Proverbe 8. L'artisan de Dieu en création. Et après avoir été l'artisan en création, il est l'envoyé, Jésus-Christ est l'envoyé pour la rédemption.
Alors pendant que Marc travaille, je lis quelques passages qui montrent cela, les mains de Dieu, comme si Dieu avait des mains, mais l'Esprit de Dieu s'adresse à des humains. Donc, il parle des mains de Dieu. Au psaume 92, par exemple, David dit, c'est pas David, mais c'est un autre psalmiste, « Car, ô Éternel, tu m'as réjoui par tes actes, je chanterai de joie à cause des œuvres de tes mains. » Un peu plus loin, au 95, « À lui et la mer, et lui-même l'a fait, et le sexe, ses mains l'ont formé. » Encore un peu plus loin, au psaume 102, il est dit « Tu as jadis fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Encore un peu plus loin, au psaume 140, je ne retrouve plus. Je ne retrouve plus le verset. Alors, à propos du corps humain, c'est dans Job.
Oui.
Dans Job. Job, chapitre 10. C'est quand même assez remarquable. Job dit au chapitre 10, verset 8, « Tes mains m'ont formé et m'ont façonné tout alentour en un tout et tu m'engloutis. Souviens-toi, je te prie, que tu m'as façonné comme de l'argile et tu me feras retourner à la poussière. »
Ouais. Et au psaume 134, je crois, il est parlé aussi de Dieu façonne comme une broderie. Dans le jeune enfant, dans le ventre de sa mère, est façonné par Dieu. Et cela doit émerveiller les parents qui attendent un enfant. Et c'est donc merveilleux de voir ce que Dieu fait.
Psaume 139, verset 15. « Mes os ne t'ont point été cachés. J'ai été fait comme dans le secret, façonné comme une broderie dans les lieux bas de la terre. »
Alors, c'est une étape, le pot n'est pas fini, il serait un peu épais, un peu lourd. Je voulais dire aussi que s'il y a les mains qui façonnent, comme Lucien vient de le lire, eh bien le potier, il a aussi des outils. Des outils qui sont très simples, en bois ou en métal. Et ces outils, ils servent à rectifier, à améliorer, à aider la main du potier. Et alors j'ai souvent pensé que Dieu agit par sa propre puissance dans le cœur de quelqu'un, mais aussi, et je le dis pour les jeunes et les enfants, Dieu a des outils dans ses mains. Et ces outils, ce sont d'abord les parents des enfants, qui sont là pour aider leurs enfants à croître dans la connaissance du Seigneur Jésus et à hériter de la vie éternelle. C'est Dieu qui fait tout, bien sûr, mais les parents sont là pour aider. Il y a d'autres outils qui sont nos circonstances dans la vie, n'est-ce pas ? Dieu se sert des circonstances de la vie pour nous former pour lui. Donc, voilà, des outils, un tournassin, une esthèque, un ébauchoir, voyez-vous ? Mais vous savez, généralement, le potier, surtout les potiers africains, ceux qui ont vu les potiers marocains ou algériens, n'est-ce pas ? Ils ont des morceaux de bois. Et cela marche tout aussi bien. Alors vous voyez, à partir d'ici, eh bien, le pot va bien sûr se former et on essaie de limiter l'épaisseur, de donner une forme, celle qu'on a choisie, Moi, je n'ai que des formes simples parce que...
Il y a quelquefois des éléments extérieurs.
Ah, qui viennent, voilà. Alors ça, bien sûr
endommager le travail de Dieu.
C'est pas le plan de Dieu, ça.
Et alors, il faut qu'il retravaille.
Et oui. Et alors, on peut se poser la question. Là, je crois que tu as fait l'œuvre de quelqu'un. Là.
Je suis du mauvais côté.
Heureusement que tu es là.
Pardon. Heureusement que tu m'avais commandé.
Alors, mais je pense qu'il faut dire les choses.
Ouais, non, mais c'est
pas moi. Là, tu
Dieu entrave, Satan entrave l'œuvre de Dieu, la déforme, la gêne.
Et cela peut arriver à tout âge. Parce que, bon, on a parlé du jeune enfant, n'est-ce pas, de sa croissance, mais le pot n'est jamais terminé d'une certaine manière. Et il ne sera dans sa perfection que lorsque nous serons transformés à la ressemblance du Seigneur, transformés dans la gloire, n'est-ce pas? Et le pot est en constante formation, même si c'est l'image de... Ce qui est important, et ça certainement Bernard en parlera, c'est ce qui est dans le pot, c'est-à-dire le trésor que Dieu place dans le pot. Alors voilà, eh bien Dieu et le potier là maintenant est obligé de passer à un travail de rectification qui n'est pas toujours facile, mais bon, il a des outils, et puis on peut porter remède, n'est-ce pas, comme Dieu porte remède dans nos vies aux différents accidents qui peuvent se produire, n'est-ce pas, voilà. Et c'est toujours le travail de sa grâce qui restaure, et ses mains qui sont toujours là pour bénir. Vous voyez que le pot prend forme. Deux efforts. Je pense souvent que c'est la parole et l'Esprit de Dieu qui agissent en nous pour former le vase. Bon, il a pris une forme un petit peu... pas celle qui était prévue, mais voilà, n'est-ce pas ? On va peut-être y arriver, puis si on n'y arrive pas, j'en ai porté un là qui finit. J'ai pris les avances, n'est-ce pas ? Puis on ne va pas perdre trop de temps, parce qu'il faut aussi que... Alors c'est là que les outils peuvent servir à améliorer et à donner la forme voulue, et l'épaisseur surtout, parce que quelque chose de trop épais éclate dans le four. Donc c'est le feu qui révèle la... si le vase a été bien réalisé ou non. Parce qu'un vase trop épais éclate, surtout s'il n'est pas bien sec. Voilà, vous avez compris le procédé. On va arrêter là. Vous savez que pour rectifier le bord, eh bien on peut prendre quelque chose ici, je l'ai déjà fait. Et vous avez donc le vase qui n'a pas été... Je n'ai pas pris le temps qui était nécessaire, mais voilà, hein, c'était pour montrer, retrouver le geste du potier. Alors, le deuxième stade, c'est le séchage. Vous en avez un qui est là en train de...
Il nous dit dans son chapitre 12, et au verset 11, « J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai parlé en similitude. » Il y a une autre traduction pour ceux qui sont curieux qui dit « J'ai parlé en parabole. » Et Dieu nous parle en parabole. Parce que il part du concret. Comme le disait Lucien tout à l'heure, il sait que nous avons besoin de choses concrètes pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Et c'est pratiquement constant dans sa parole. Il veut aussi nous donner une part de responsabilité. Et quand il nous parle en parabole, il veut que nous saisissions le récit qui nous est fait, mais il veut aussi que nous saisissions le sens profond, le second degré, comme on pourrait dire. Et constamment, Dieu nous laisse cette part de responsabilité. On le verra tout au long de notre de notre méditation. Et c'est ainsi que Dieu, par ses paraboles, à partir des choses finies, nous fait connaître l'infini, nous ouvre les yeux sur l'infini. À partir des choses qui sont habituelles, il nous fait connaître l'inhabituel. À partir des choses humaines, il nous fait connaître le divin. Constamment, Dieu nous invite, nous le répétons, à une part de responsabilité. Avant d'aborder notre sujet proprement, avec les versets de Jérémie 18 qui nous ont été lus, on a remarqué dans cette lecture l'obéissance de Jérémie. Le prophète Jérémie ne dit rien. L'Éternel lui a dit « Va, descends à la maison du potier. » Et Jérémie descend à la maison du potier. Il est un serviteur obéissant. Qu'est-ce qui est demandé à un serviteur? Qu'est-ce qui est demandé à un serviteur? Rien d'autre que l'obéissance. On le retrouve tout au long de la parole. Par exemple, dans Luc, au chapitre 7, on voit un centurion qui est habitué à recevoir des ordres d'en haut, et puis aussi à en donner. Et quand il donne un ordre à un de ses légionnaires, il va et il fait le travail qui lui est demandé. Il y a un seul serviteur qui a agi par amour, c'est celui d'Exode 21. De nul autre serviteur, il n'est dit qu'il a placé son amour dans son travail. Mais celui d'Exode 21 peut dire, et avant tout, et c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait agir, j'aime mon maître, ma femme, mes enfants, j'aime. Voilà ce qu'il faisait agir. Christ, le vrai serviteur, agit par amour. Pour Jérémie, il agit en vrai serviteur, il obéit. Il descend dans la maison du potier. Et que voit-il dans l'atelier de ce potier? Eh bien, il voit trois choses. Il voit l'argile, on en a un peu parlé, on va en reparler un petit peu. Il voit le potier et il voit le vase. L'argile, c'est la matière. Le potier, c'est celui qui fait tout. Sans qui, rien n'est possible. Rien ne se fait. Et puis, le vase, c'est le travail, c'est le résultat attendu par l'artiste, par l'artisan. C'est le travail parfait du divin potier. Voilà ce que voit Jérémie. L'argile, le potier, le vase. L'argile, on peut se demander quelle est sa constitution, à quoi sert cette matière. Le potier, on peut se demander quel est son savoir-faire. On peut se demander quelle est sa pensée, quel est son but. Il ne fait pas un pot pour se faire plaisir. Et puis le vase en lui-même, alors on peut se demander ce qu'il est d'abord. Et on a déjà eu une explication avec Lucien qui nous a parlé d'Israël, figure de ce vase. Mais c'est aussi la nature humaine, c'est aussi l'homme et c'est aussi le croyant, comme l'a dit Marc. C'est le croyant, le vase. Et alors un vase, ça sert à quoi? Un vase, ça sert à être rempli. Rempli de quelque chose. On a des vases ici. On a un vase d'ornement. Il a des fleurs. On a d'autres vases ici qui ont servi dans les années qui nous ont précédés. On parle de choses un peu lointaines pour certaines choses qui ont contenu des aliments. On se souvient par exemple dans certaines cruches, dans certaines fermes, on gardait la viande, on gardait les œufs dans certains vases. Voilà. Un vase sert à être rempli. Et de quoi peut-il être rempli? Eh bien, on va voir tout ça ensemble. Et c'est vraiment ce sujet que Lucien avait choisi déjà depuis longtemps et qu'il voulait traiter. C'est vraiment un sujet merveilleux quand on le regarde de près. Alors d'abord, l'argile. L'argile, pour ceux qui connaissent cette terre, c'est une terre qui, en dehors des vases qu'on peut faire, en dehors peut-être de quelques cosmétiques, parce qu'elle a des vertus chimiques qui permettent de l'ingérer, de la mettre dans certains cosmétiques, qui d'ailleurs embellissent la personne. On le remarquera. Ces cosmétiques-là sont faits pour embellir la personne. Donc, l'argile ne sert à rien. Quand un agriculteur a une terre argileuse, c'est une catastrophe. Il est obligé de l'amender et de l'amender longtemps avant qu'elle soit fertile. C'est une terre qui se gorge d'eau et qui, à ce moment-là, est imperméable, devient imperméable. Et l'été, c'est une terre qui est sèche et dure comme la pierre. C'est une terre qui, sur le plan agricole, je ne sais pas, Lucien, si tu confirmes ma pensée, mais sur le plan agricole, l'argile, c'est une terre pratiquement stérile. C'est une mauvaise terre, en tout cas. Bien sûr, amendée, après, elle peut avoir des vertus. Voilà une des choses que constate Jérémy quand il vient dans l'atelier du potier. Il y a cette argile, une terre, une masse informe qui ne sert à rien, mais seulement elle va passer dans les mains du potier. Et elle a là, à ce moment-là, elle a des vertus. Elle a cette vertu, on l'a vu, elle est malléable. Elle est souple, elle est malléable. Et en plus, quand elle est formée, elle garde sa forme. Elle ne tombe pas en bouillie. Elle garde sa forme. Et dernière chose, elle supporte l'épreuve du feu. Elle supporte l'épreuve du feu. Le vase confectionné par Marc va passer dans un four à plus de 1000 degrés. C'est quelque chose qui supporte l'épreuve du feu. Alors, Jérémy voit cette masse informe. Elle va parler de nous, cette masse informe. Il voit le potier, sans qui rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire. Et les mains du divin potier sont les mains d'un artiste, d'un artisan, sont les mains d'un homme qui crée des chefs-d'œuvre, d'un créateur, et c'est celui qui fait des chefs-d'œuvre. Il a son savoir-faire. On l'a vu tout à l'heure, il a une main à l'extérieur, une main à l'intérieur, et lorsqu'il rencontre un noyau dur, parfois, on l'a vu, il force. Et ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est nécessaire à la formation du vase. C'est nécessaire à la formation du vase. Tout ce qui nous éprouve, tout ce qui nous discipline, est bon pour notre formation. Voilà en ce qui concerne le potier. Il a une intention aussi, c'est de faire ce qui nous est révélé en 2 Timothée 2. En 2 Timothée 2, verset 19, des versets qu'on connaît bien. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, avec, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Et qu'il se retire d'une iniquité, et quiconque prononce le nom du Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi des bois de bois et de terre. Et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Alors on traduit cela plus exactement aujourd'hui par un usage courant ou par un usage noble. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître. Utile au maître. Retenons bien cette expression. Ce qu'il y a dans la pensée du potier, c'est un vase utile au maître. Un vase utile au maître. Sans ses mains qui pressent parfois là où ça fait mal, eh bien, il n'y a pas de possibilité d'être utile au maître. Et alors, chose remarquable aussi, c'est que le potier ne termine jamais son ouvrage sans que le vase confectionné ne soit exactement comme il le désirait. On l'a vu dans Jérémie. Il veut un vase tel que le potier a décidé qu'il sera. On va voir combien ça nous parle. Donc, l'argile, le potier, avec ses intentions, son savoir-faire, sa main qui est parfaite. Et puis, le vase. Alors le vase, qui est-il? Eh bien, Jérémie 18 nous autorise d'abord à dire que c'est Israël. Les choses sont simples. Dieu nous donne la possibilité de comprendre sa pensée immédiatement. Dans le prophète, on a cette pensée. Ne puis-je pas faire de vous comme fait le potier aux maisons d'Israël? Donc, le vase, c'est d'abord la maison d'Israël. Israël, c'est un peuple qui a été aimé, c'est un peuple qui a été choisi, c'est un peuple qui a été élu, c'est un peuple qui a été aimé, qui a été porté, qui a été secouru, c'est un peuple qui a été nourri, qui a été abreuvé. C'est un peuple que Dieu aimait par-dessus tout. Et c'est un peuple, l'apôtre Paul nous le dit, désobéissant et contredisant. Désobéissant et contredisant. Dès la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël a murmuré. Dès la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël s'est détourné. Et comme il est dit dans Exode 32, ils se sont vite détournés du chemin dans lequel je les avais placés. C'est Dieu qui dit ça. C'est l'Éternel qui dit ça. Ils se sont vite détournés du chemin dans lequel je les avais placés. Pourtant, Dieu, dans sa patience, est allé jusqu'au bout. Il peut dire dans le prophète Ésaïe, il peut dire, lorsque Israël est comparé à une vigne, au chapitre 5, il peut dire, il a planté des cèpes exquis. Il s'attendait à ce qu'elle produise de bons raisins. Elle a produit des raisins sauvages. Et maintenant, habitant de Jérusalem, que l'auteur prend à témoin, homme de Juda, jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Quand j'espérais pouvoir recueillir des raisins, elle ne m'a donné que des raisins sauvages. Dieu est allé jusqu'au bout dans sa patience pour Israël. Jusqu'au bout. Et en 2 Chroniques 36, il est obligé de dire « Il n'y a plus de remède. » Il n'y a plus de remède. Et Israël est mis de côté. Israël est mis de côté et il y a toutes les épreuves d'Israël qui durent encore jusqu'à nos jours. Et qui ne sont pas finies. Et qui ne sont pas finies. Les épreuves d'Israël sont certainement jusqu'à présent de bien inférieures à ce qu'elles vont être dans les années qui viennent. Voilà, Dieu avait tout fait pour sa vigne. En retour, il n'a reçu que des raisins sauvages, alors qu'il avait tout fait pour cette vigne. Et il a pu dire, il n'y a plus de remède. Il n'y avait plus de remède, mais il y aura le nouvel Israël. Il y aura l'Israël de Dieu. Il y aura l'Israël renouvelé. Il y aura l'Israël qui sera fondé sur l'œuvre de Christ, non plus sur la loi. Non plus sur la loi. Parce que les Israélites ont tous dit, lorsque Dieu a présenté la loi, les Israélites ont tous dit, mais qu'à cela ne tienne, ce que Dieu a dit, nous le ferons. Et tout de suite après, ils ont fait l'inverse de ce qu'il fallait. Ils ont fait l'inverse de ce qu'il fallait. Il y aura le nouvel Israël. Et là, Dieu en sera parfaitement satisfait. Qui plus est, cet Israël-là sera, permettra justement la divulgation en nation de tout ce qui est divin, de tout ce qui est de l'évangile de la paix, dès lors qu'ils seront, ils auront cru. Mais quelle indignation de la part de Dieu lorsqu'il a vu que sa vigne ne produisait que des raisins sauvages. Alors, ce vase-là, il fallait qu'il soit brisé. Il fallait qu'il soit cassé. Et ce n'était pas le bon vase. Mais Dieu va le refaire. Dieu va le reconstituer. Pour l'humanité, pour l'homme et le croyant, il en est totalement de même. Et alors, il est bien important, et Marc a commencé à souligner ce fait-là, c'est que, au départ, il n'y a pas de mauvais argile et il n'y a pas de mauvais potier. Le potier est Dieu. Il est parfait. Nous sommes son ouvrage. Il est parfait et ce qu'il fait est parfait. L'argile était parfaite au départ. L'argile était parfaite. Dieu a créé l'homme comment ? Il l'a créé à son image. Chose extraordinaire. Et donc tout était parfait. Mais il s'est produit ce que l'on sait. Et là, l'argile a été gâtée. Il s'est produit ce que l'apôtre Paul dit et que nous constatons malheureusement tous les jours, c'est que en moi, il n'habite pas de bien. Il n'habite pas de bien. Et le péché habite en moi. Le péché habite en moi. Le vase a été gâté. Dieu va-t-il recoller les morceaux ? Dieu va-t-il recoller les morceaux ? Va-t-il passer une nouvelle couche de peinture, comment tu appelles ça, Marc ?
De l'émail.
De l'émail. Pour que le vase soit une allure un peu meilleure ? Pas du tout. Pas du tout. Dieu n'a pas cette habitude de recoller les morceaux ou de redonner, comme nous le faisons facilement, une couche de peinture pour que ce soit plus joli. Non. Quand une pièce est fatiguée, quand une pièce a 10 ans, a vécu pendant 10 ans l'occupation de ses habitants, il faut lui redonner une couche de peinture. On le fait facilement à la maison, c'est pas comme la façon d'agir de Dieu. Il refait le vase. Il refait le vase. Et il le fait sur une nouvelle base. Il le fait sur une nouvelle base. L'œuvre du Seigneur Jésus. L'œuvre de la croix au Seigneur Jésus. Et alors, qu'est-ce qu'il obtient ? Qu'est-ce qu'il obtient ? Eh bien, il obtient ce qu'il appelle, à plusieurs reprises dans la parole, mais nous en avons au moins 3 exemples en tête, il obtient un homme en Christ. Un homme en Christ, c'est Paul, lorsqu'il est élevé au 3e ciel, et qu'il dit, avec beaucoup d'humilité, « Je connais un homme en Christ ». En Christ, c'est, il parlait de lui. On a cette expression aussi dans l'Épître aux Romains, lorsque, au chapitre 8, dans le premier verset, Paul nous dit « Ceux qui sont du Christ Jésus et ceux qui sont dans le Christ Jésus, pour cela, il n'y a pas de condamnation. » Et puis nous trouvons aussi cette expression, et elle est totalement dans notre sujet, dans la deuxième Épître aux Corinthiens, au chapitre 5, et au verset 17. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Dieu ne raccommode pas. Il fait du nouveau, il fait du neuf. Et il nous prépare pour une autre création, pour une nouvelle création. Tout ce qui est de nous sera brisé. Tout ce qui est de nous sera brisé. Il y a cette magnifique expression, et j'invite les jeunes en particulier, et nous on peut le faire, à relever les expressions poétiques de la Bible, parce qu'elles touchent nos cœurs. Elle touche nos cœurs. Et dans ces expressions poétiques de la Bible, on a ce passage d'Ecclésiaste qu'on se plaît à lire au chapitre 11, ou chapitre 12. Où le prédicateur dit au verset 6, avant que le câble d'argent se détache, que le vase d'or se rompent, que le son se brise à la source, que la roue se casse à la citerne et que la poussière retourne à la terre comme elle y avait été, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Comme ils sont beaux, ces passages, comme ils nous font du bien. Dieu avait créé un vase parfait, il s'est corrompu, il a été gâté. Il n'était plus bon à rien. La nouvelle traduction, vous le remarquerez, dans Tite, chapitre 3, verset 3, dit, emploie cet adjectif, détestable. On avait dans l'ancienne traduction, haïssable. Aujourd'hui, on a détestable. Eh bien, voilà le vase qui s'est corrompu. Il est détestable aux yeux de Dieu. Détestable aux yeux de Dieu. Et puis, il l'a créé, non pas simplement pour le cycle terrestre, pour un cycle terrestre, mais il l'a créé avec ces trois dimensions, corps, âme, esprit. Et l'âme, l'esprit, retourne à Dieu qui l'a créé. Et là, on a la dimension toute spéciale de l'homme qui le distingue de la nature tout entière, son immortalité. Il est immortel. Alors, il y a, là encore, le choix que Dieu nous donne constamment. Constamment, Dieu nous laisse une part de responsabilité. Dans la première création, Dieu avait un interdit. Tu ne mangeras pas de cet arbre. Voilà, un interdit. Il n'y en avait pas plusieurs, il y en avait un seul. Tu m'obéis, tu ne manges pas de cet arbre, et c'est la vie. Satan s'approche, lui ne donne aucun interdit. Et vous remarquerez que le monde dans lequel nous vivons, il n'y a plus d'interdit. Et plus nous avançons, et plus Satan recule les limites. Il n'y a plus d'interdit. Voilà le monde tel qu'il est gouverné aujourd'hui. Il n'y a plus d'interdit. Dieu donne un interdit, Satan n'en donne pas, mais il ment. Et il engage l'homme dans une voie funeste, mortelle. Mortelle. Heureusement, Dieu fait un nouveau vase. Un vase qui est beau et qui, comme nous dit l'Épître à Timothée, est utile au maître. Alors, les caractéristiques du vase. Les caractéristiques du vase, bien, ce sont celles-ci. Un vase utile, un beau vase, un vase qui peut servir à la fois dans l'usage courant, dans les ménages, qui peut servir aussi à l'embellissement de la maison. Et on en a besoin. Ce qui est remarquable, c'est que ce vase doit être rempli. Le vase doit être rempli, sinon il n'a pas d'utilité. Il n'a pas d'utilité. Quand il y a des fleurs dedans, il faut qu'il soit rempli. Ce vase doit être rempli. Et alors, il y a une pensée sur laquelle nous nous permettrons d'insister, c'est que, avant d'être rempli, un vase doit être vidé. Un vase doit être vidé. Vidé de quoi ? Vidé de moi. Un vase plein de moi, plein de mon ego, plein de mon orgueil, n'a aucune place pour Christ. Je ne laisse pas de place pour Christ. Il me faut vider le vase. C'est ce que l'apôtre appelle dans les Colossiens ou dans Éphésiens, avoir dépouillé le vieil homme. Dépouiller le vieil homme. Dans le vase, il peut y avoir de mauvaises choses. Et il faut le vider. On a la même image quand le peuple entre en Canaan, dans le pays ruisselant de lait et de miel. Dieu avait dit, vous allez entrer dans ce pays ruisselant de lait et de miel, il vous faut le vider de tous ses ennemis, de tous mes ennemis, à moi, l'Éternel, mais qui sont vos ennemis. Et alors vous pourrez jouir de la paix, vous pourrez jouir des fruits du pays. Et ce sera là vraiment ma pensée. Vous aurez accompli ma pensée. Israël n'a pas accompli ce que Dieu lui a dit. Il a préféré la cohabitation. Et on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, dans nos vases, pas de cohabitation entre le moi et le Seigneur Jésus. vidons ces vases de nous-mêmes. Il n'y a pas d'action possible. Et le maître ne peut pas s'en servir s'il n'y a pas, s'il n'est pas plein de lui. De quoi peut-il être plein, un vase? Eh bien, on le trouve, cela, dans le livre des Actes, lorsque, par exemple, Étienne va succomber sous les pierres des Juifs. Il est dit que cet homme était plein de l'esprit. Cet homme était plein de l'esprit. Ils choisirent, acte 6, verset 5, ils choisirent Étienne, homme plein de foi et de l'esprit. Et dans le chapitre suivant, acte 7, au verset 55, lui, Étienne, étant plein de l'Esprit Saint, ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà, un homme plein de l'Esprit. Un homme plein de l'Esprit. Et c'était la part des disciples. C'était la part des disciples, d'être plein de l'Esprit. On peut être plein aussi de la connaissance. C'est ce que, dans une prière, l'apôtre Paul souhaite pour les Colossiens. Nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Remplis de la connaissance de sa volonté. On peut être plein de joie. Et c'était le cas des disciples. En acte 13, par exemple. On le trouve à la fin du chapitre 13 du livre des Actes. Les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. On peut être rempli, nos vases peuvent être remplis. Et c'est bon qu'ils soient remplis de l'Esprit. C'est bon qu'ils soient remplis de joie. C'est bon qu'ils soient remplis de la connaissance, de la volonté de Dieu. C'est bon qu'ils soient remplis de foi. On peut chercher beaucoup de choses comme cela dans la parole. Remplis de crainte aussi. Parce que nous parlons de choses qui sont très élevées. Et nous avons besoin d'être remplis de crainte. Un vase peut être aussi, pour être utile à son maître, il faut qu'il soit aussi beau, c'est-à-dire tel qu'il le désire. Alors c'est parfois quelque chose de difficile à comprendre. Peut-être pas à comprendre, mais de difficile à accepter. Le terme est meilleur. C'est plutôt difficile à accepter. Quoi, Bernard, un tel, un beau vase, ce frère grincheux, un peu beaucoup pénible, un beau vase? Eh bien oui, non pas l'être de chair que vous voyez, que vous avez en face de vous, mais le vase tel que le Seigneur l'a voulu. Et ce vase-là, il est beau. Ce vase-là, c'est un chef-d'œuvre. C'est le vase que le Seigneur va utiliser. Pourquoi? Mais pour ce qui sera placé devant ton chemin, ce soir, demain, le vase sera utile au Maître. Et les dons qu'il t'a donnés, il y a trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui nous disent « Le Seigneur en a besoin ». Tout ce qu'il a placé dans nos vases, le Seigneur en a besoin. Et de cela, il n'y a jamais défaut. Il n'y a jamais défaut du côté de Dieu. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, voilà une pauvre veuve. Elle n'a plus rien. Avec ses deux enfants, elle n'a plus rien. Qu'un pot d'huile. Un petit pot d'huile. Et le prophète lui dit, mais voilà, les choses vont se régler. Tes enfants ne seront pas serviteurs, ils ne seront pas esclaves. Tu vas prendre des vases, tu vas demander des vases à tes voisins, et avec le pot d'huile que tu vas les remplir. Elle les remplit. Et à la fin, elle dit à ses enfants, donnez-moi encore un vase. Et les enfants disent, il n'y a plus de vase. Le pot d'huile continue à couler. Du côté de Dieu, il n'y a jamais défaut. Lui, il ne fait jamais défaut. Du côté de Dieu, il y a tout en abondance. C'est de notre côté, tout d'un coup, il manquait des vases. Il n'y avait plus de vases. Mais du côté de Dieu, il n'y a jamais défaut. Et le Seigneur utilise le vase tel qu'il l'a voulu, le beau vase tel qu'il l'a voulu, pour son service. Dernier caractère de ce vase, c'est ce que nous trouvons dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus, notre Seigneur, et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres, la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Eh bien, ces versets que nous avons saisis ici et là à travers la Bible nous ont fait faire un périple magnifique. Nous avons touché les sommets, l'excellence de la puissance de Dieu, la connaissance de sa gloire. Nous touchons les sommets, la connaissance de sa gloire. Ce que Moïse, dans le chapitre 33 de l'Exode, avait pu demander en disant, dans une supplication fervente et de tout son cœur, « Fais-moi voir, je te prie, ta gloire. » Il n'a pas pu. Il n'a pas vu la gloire de Dieu, sinon par derrière. Et bien nous avons cette possibilité. Nous avons cette possibilité, nous pouvons voir la gloire de Dieu dans la face de Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Mais si nous avons touché les sommets, nous avons dans ce verset la considération de ce que nous sommes. Des vases d'argile, des vases faibles, des vases dont Élieu, le seul compagnon de Job à lui être utile, les autres étaient des consolateurs fâcheux, le seul compagnon à lui être utile, Élieu, dans le chapitre 33 de Job, se met exactement à sa portée. Il se met exactement à sa portée. Job 33, verset 6, nous dit ce que rapporte la parole d'Élieu. « Je suis comme toi quant à Dieu, je suis fait d'argile moi aussi. » Eh bien, se mettre au niveau de Job, tout a changé. Et on le voit bien, on le sait bien, dans nos assemblées par exemple, quand nous sommes en véritable communion, c'est que nous sommes au même niveau. Sans cette donnée essentielle, je suis d'argile comme toi, tu es d'argile comme moi, sans cette base-là, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de communion possible, puisque l'un se met au-dessus de l'autre, comme les trois amis de Job se mettaient au-dessus de lui et l'accusaient. Tu es un propre juste, écoute, tu as fait quelque chose de mal, il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas bon. Non, Élieu ne commence pas par ça. Il commence par un chemin tout à fait différent. Je suis comme toi quant à Dieu, je suis d'argile moi aussi. Nous avons touché les sommets, la connaissance de la gloire de Dieu, et nous restons dans nos vases d'argile, ce qui nous humilie, qui nous fait du bien toujours, parce que la volonté de notre Père, c'est de nous former comme le divin potier. Gloire soit à ce potier.